Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, en partenariat avec Prestataire Certification sur Radio Immo et Radio Territoria.
Les amis, bonjour, on est en direct, il est quasiment 10h, on est ravis d'être avec vous. C'est la seconde journée ici au Grand Palais, un bâtiment magnifique, un écrin architectural qui normalement était prévu pour être éphémère. Il a duré, puisqu'il s'est inscrit sur la durée. Je rappelle que cet ouvrage architectural avait été créé à l'occasion de l'exposition universelle qui avait fait visiter jusqu'à 15 millions de visiteurs. C'est astronomique, il a résisté au temps et aujourd'hui on ne peut plus imaginer Paris sans la Tour Eiffel et sans le Grand Palais par exemple. On est ravis d'être avec vous, avec nos amis de Prestataire. Nous avons coproduit une émission. Bien évidemment, on est dans le cœur du sujet puisque on est ici au Salon Immobilier 5e édition, 5 Salon Immobilier Bas Carbone, le CIPCA, de l'ambition à la massification. Quel levier pour passer à l'échelle, parce que le bâtiment bas carbone, c'est plus vraiment un terrain d'expérimentation, c'est construire autrement, on s'est rénové. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des modes constructifs qui sont hyper ingénieux, avec une faible empreinte carbone. On sait travailler sur les matériaux, l'énergie, le réemploi, la conception. Bref, on sait aussi mesurer de mieux en mieux la performance environnementale d'une opération. Et pourtant, il y a quand même quelques opérations exemplaires et une transformation profonde de la production immobilière. Il y a quand même un gap énorme pour arriver, on va dire, à l'échelle. L'échelle, on va être très clair, hein, c'est la volonté politique en Europe et dans le monde de passer à la neutralité carbone en 2050, normalement. Hein. C'est une trajectoire. Est-ce que le compte y est ? Bon, bah écoutez, on va en parler aujourd'hui parce qu'on va se demander de comment on passe de l'ambition de la rénovation, de la ville qui se reconduit sur elle-même, comme le disait un architecte, de planter de la ville, de la faire s'élever sur ce qui existe déjà. C'est un principe stratigraphique, les couches de la ville, qu'est-ce qui fonctionne déjà, qu'est-ce qui bloque, et surtout comment on fait du bas carbone, non plus une particularité de certaines opérations, mais une façon résolue de le faire systématiquement, quelles que soient les opérations, de manière normale, construire et rénover. Ben, ça tombe bien, on a des experts pour en parler. Nous allons avoir des regards, des expérimentations, promoteurs, bailleurs, AMO, environnementaux et certificateurs. Bonjour Léa, on dit Glin ?
Oui.
Léa Glin, comment ça va ?
Très bien.
Ben, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. On répare une injustice, moi je vous regardais depuis des années. Et là, mon rêve se réalise. Vous êtes sur le plateau. Directrice du développement et transition au groupe Pierval.
C'est ça.
Merci d'être avec nous pour parler de ces sujets. Également avec nous, alors là, je ne vais pas bouder mon plaisir, c'est Violette Falissard.
Bonjour.
Comment ça va, Violette ?
Ça va très bien.
Ah, je suis ravi. Voilà, je suis ravi. J'annonce Violette, championne d'Europe de cyclisme en indoor. Voilà. Non, je vous taquine, mais je suis ravi que vous soyez là. Violette, vous êtes responsable adjointe du pôle environnement chez Amodev. Merci d'être avec nous pour parler de ces sujets. Il est avec nous quand il n'est pas sur les terrains de football américain ou sur un terrain de rugby. En tout cas, il est responsable du service environnement climat du groupe Polylogie. Un petit clin d'œil à sa présidente Karine Julien Elkaïm. Bonjour Romain Mesclon.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Eh ben, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. On est vraiment très bien entouré. On n'a que les meilleurs sur le plateau. Rodolphe Barreau également avec nous. Voilà. Rodolphe. C'est la légende de la rénovation. On ne peut rien faire sans lui. Il est responsable qualité référentielle chez Prestataire Certification, le seul certificateur français qui fait un travail exceptionnel. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour à tous.
Voilà, on a besoin de vous, hein, Rodolphe, hein, sur ces sujets.
Eh ben, on est là.
Hein, il faut savoir évaluer, mesurer, certifier. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de teasing ce soir. J'anime les pitchs justement sur les bâtiments remarquables bas carbone, puisqu'il y a une remise de trophées à 14h. Dès 18h, on fait justement, on met en relief les opérations remarquables, qui sont remarquables, mais qui vont devenir la norme avec le temps, bien évidemment. C'est l'objectif. Premier élément, le bas carbone, un objectif commun, mais des réalités plutôt différentes. On emploie tous l'expression bas carbone. Moi, j'aimerais qu'on sorte un petit peu du discours général, si vous êtes d'accord, pour essayer d'entrer un peu plus dans le sujet. Qu'on fasse un peu d'abstraction, je veux bien, parce qu'il n'y a pas de pratique sans théorie, on va être très clair, mais j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on aille vraiment dans les illustrations pratiques. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut justement arriver à l'échelle. Parce que dans votre métier, justement, on va dire une opération. Qu'est-ce qui nous permet de dire, ça c'est la première question un peu générale, que c'est une OP réellement bas carbone ? On va commencer par Léa.
Alors,
déjà, on va présenter Pierval, D'accord. Et ensuite, on va enchaîner sur le débat.
Alors, le groupe Pierval, il existe depuis plus de 30 ans. C'est un groupe indépendant familial avec environ 600 salariés dans toute la France, dont 300 dans la promotion immobilière.
Donc, ah oui, quand même.
Le cœur de métier du groupe. Et on fait plus de 2000 logements par an.
2000 logements par an. Vous êtes uniquement sur le métier de la promotion neuve ou vous, aujourd'hui vous allez de plus en plus vers de la réhab et de la régénération?
On intègre un petit peu de rénovation ponctuellement en fonction des contraintes de site.
Merci d'être là. Le sujet, je pense qu'il vous tient à cœur, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, l'impact carbone, c'est quelque chose qui touche absolument toutes les classes d'actifs et en particulier l'immobilier résidentiel. Violette Falissard, quand on parle justement, qu'on se dit l'expression bas carbone, au-delà du discours général, d'abord, vous allez présenter votre société. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la dialectique de dire que c'est vraiment une opération bas carbone? Qu'est-ce qui nous permet de le dire?
Du coup, pour commencer avec la présentation d'Amodev, donc on est un bureau d'études en environnement. On est une trentaine environ, et bureau d'études environnement, on fait de la certification environnementale, donc comme le propose prestataire. On fait aussi tout ce qui est des études réglementaires et Euro 2020, donc on fait notamment des analyses de cycle de vie qui permettent de quantifier le bilan carbone d'un bâtiment. Et du coup, nous, c'est un peu comme ça qu'on peut qualifier si une opération est vraiment bas carbone, c'est en réalisant son bilan carbone. C'est très pragmatique. Hein.
Enfin, oui,
on a un bureau d'études, donc nous, bas carbone, on regarde le bilan carbone et on regarde le résultat. Si, pour moi, si on est bas carbone, c'est qu'on va au-delà de ce que le réglementaire va nous demander d'un point de vue bas carbone.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais, c'est intéressant. C'est pas uniquement d'être dans la conformité réglementaire ou normative, c'est finalement aller plus loin. Il y a deux aspects. Ouais. Vous avez les promotes. Mais je peux comprendre, hein, au niveau contraint, pour eux, c'est difficile, etc. À qui on impose, d'ailleurs, parce qu'il faut être honnête, on a quand même subi une inflation normative et réglementaire importante qui a quand même parfois bloqué des opérations. Mais là, dans ce que vous dites, une opération bas carbone va bien au-delà en fait, de la simple norme ou de la simple contrainte.
Bah, c'est mon point de vue. Après, voilà,
moi,
c'est mon
non, point mais moi, de vue je suis d'accord avec
de
vous parce que je pense
l'environnement,
que...
mais oui, à mon sens, on ne peut pas se dire bas carbone si on fait juste respecter la réglementation qu'on m'impose. C'est une démarche au-delà du réglementaire.
Je pense que c'est ingénieux d'aller dans ce sens. Parce que d'un point de vue business comme d'un point de vue usage, ça répond à plein de choses. Et il vaut mieux devancer quelque part, aller plus loin que la norme ou la réglementation pour être sûr justement qu'on ne soit pas contraint à un moment donné de subir. Donc j'aime bien cette idée, Robin, justement sur cette question. Et puis on va présenter aussi en quelques mots le groupe Polylogie.
Le groupe Polylogie, c'est aujourd'hui un opérateur global de l'habitat qui gère un peu plus de 90 000 logements sociaux. Et aussi promoteur, aménageur et à travers ces différentes sociétés permet aussi de gérer des logements privés.
Alors vous avez combien de le portefeuille, c'est combien de logements gérés aujourd'hui?
Un peu plus de 90 000.
Ah oui quand même.
80 000 logements sociaux.
Sur l'Île-de-France, le terrain de jeu?
Non, ça va être sur l'ensemble du territoire français,
oui.
Une majeure partie en Île-de-France et en Normandie. Et après on va être plus autour de la région d'Angers, de Châteauroux et en Bourgogne aussi.
Merci en tout cas d'être avec nous. Quand on dit une opération bas carbone, Vous êtes au cœur du réacteur hein, dans votre métier. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vraiment une OP bas carbone? À l'instar de ce que nous disait Violette, justement, très justement.
Non, ce qui va nous permettre de quantifier une opération bas carbone, ça va être dans un premier temps le respect et aller au-delà de l'anticiper la réglementation, comme le disait très bien Violette. Mais ça va être aussi derrière, nous en tant que bailleur social, de pouvoir gérer et exploiter un bâtiment, exploiter des logements de manière bas carbone, ça veut dire de pouvoir en fait derrière exploiter et émettre le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie du bâtiment et sur tout simplement son exploitation en tant que bailleur social.
Oui, c'est hyper carré, hein, Rodolphe.
Absolument.
Alors justement, c'est pour ça que je finis avec vous sur cette question générale, mais quand vous l'entendez, ça vous rassure aussi quelque part de voir des autres.
Exactement, c'est les fondamentaux même de la certification. Donc juste pour présenter, Prestataire Certification est une société qui existe depuis 2008, mais qui est accréditée par le COFRAC depuis 2012, avec pour ambition donc de labelliser soit sous notre propre référentiel BEE, donc bâtiment énergie environnement, ou par le biais aussi de labellisation tiers type BBCA ou BBC Finergie, en fonction de respecter un cahier des charges que l'on vient contrôler et vérifier. Et là où je rejoins les deux interventions, c'est qu'effectivement, un projet bas carbone, c'est pas uniquement l'image où on pourrait dire de respecter les seuils IC construction et IC énergie réglementaires. Ça doit s'inscrire dans une globalité de l'ensemble de tous les lots et de tous les corps d'État. Et surtout, ce que disait Robin, c'est anticiper en fait sur la durée de vie globale du bâtiment. C'est pas juste à un instant T à la livraison du bâtiment où on fait les résultats, on voit les résultats avec les différents niveaux réglementaires ou au-delà de la réglementation, mais c'est aussi faire vivre et anticiper le bâtiment pour que dans les 50 ou 60 ans, il y ait le moins de dommages, on va dire, que pourrait subir le bâtiment et donc régénérer du carbone éventuellement derrière. Donc c'est vraiment sur son analyse globale de l'ensemble de tous les lots, ça va même au-delà du carbone, c'est la gestion de l'eau, la biodiversité, la résistance des matériaux que l'on va employer.
Mais donc, c'est aussi, est-ce que ça peut être aussi l'usage que des habitants de leur propre logement?
Alors évidemment, on accompagne aussi au travers des certifications, et les maîtres d'ouvrage le font, surtout les bailleurs comme ils sont exploitants de leur bâtiment. Ils accompagnent les usagers vers cette transformation qui est inévitable. Donc effectivement, c'est un des facteurs clés puisque le bâtiment va vivre avec des usagers, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'était évidemment une des parties prenantes très importantes. Bon, on sait aujourd'hui que la plupart des gens sont conscients des enjeux de demain et font déjà des efforts, mais c'est aussi à nous, ensemble des professionnels, de proposer les efforts dès le départ pour accompagner les usagers.
C'est très clair. Léa, les promoteurs immobiliers, depuis 5 ans, vivent une crise sans précédent. Alors, on va être très clair. Le marché s'est rétréci depuis 60%. On est passé à des opérations qui sortent chaque année qui sont quasiment les mêmes en volume qu'il y avait dans les années 60, avec 20 millions d'habitants supplémentaires. C'est vous dire la crise qui touche le monde de la promotion immobilière. L'ambition environnementale, quand on construit du neuf, par exemple, mais aussi quand on régénère, est-ce qu'elle rencontre justement cette réalité économique, justement, est-ce que ça peut obérer ou pas, ou ça peut améliorer la sortie d'une opération?
Alors je dirais que ça dépend en fait de la manière dont les promoteurs l'ont anticipé. Pour le coup, malgré la crise, nous chez Pierval, on a décidé plutôt de mettre un coup d'accélérateur et de mettre la stratégie environnementale au cœur du projet, au cœur de notre stratégie. Et donc on parlait parfois de difficultés des promoteurs à atteindre les seuils d'une réglementation environnementale contraignante. Nous, on a pris l'engagement de faire plus de 50% de nos opérations en avance de seuil. Donc, je rejoins Violette, hein, une opération en avance de seuil, seuil 2028, alors qu'actuellement, la réglementation, c'est le 2025. Et derrière, de les labelliser BBCA. Donc, malgré la crise, je dirais que la crise n'est pas une excuse à la transition environnementale.
Pas mal. Ça s'appelle une punchline, ça. C'est intéressant ce que vous dites. Et c'est presque rassurant pour les collègues promoteurs qui, aujourd'hui, souffrent hein, quand même pour sortir des opérations. Alors, on va être très carré. Hein. Est-ce qu'on est obligé de choisir entre une performance carbone, le prix de sortie et l'équilibre économique?
Alors, pour est-ce nous... pour nous, pas du tout.
Sacrifier la qualité carbone pour être... Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire un prix de sortie vendable, hein, parce que le problème, il est là, hein, c'est que les gens n'achètent plus de neuf, il faut vraiment... Voilà, comment on fait?
Alors, surtout, il faut faire différemment de ce qu'on faisait avant. Et ne rien sacrifier.
Ça, c'est sûr.
Donc, l'enjeu,
c'est...
C'est
un changement de métier, presque.
C'est un changement de métier, c'est un changement de culture. Donc, ça peut être assez long dans les équipes. C'est pour ça qu'il faut le prendre suffisamment tôt. Mais sur le carbone, en fait, le but, c'est de l'intégrer dès le début de l'opération avec les architectes et de le mesurer comme on va mesurer la surface CHAB ou le coût travaux. En fait, ce n'est pas un petit bébé qu'on laisse au certificateur ou au bureau d'études environnement. C'est à prendre en compte par toutes les équipes dès le début du projet. Et si on travaille comme ça dès le début, eh ben, en fait, on peut réussir à faire des opérations qui soient bas carbone et économiques. Et justement, en fait, on n'a pas le choix. La transition environnementale, elle ne doit pas être réservée aux opérations pilotes dans des acs où on vend à plus de 6 000 euros du mètre carré. La transition environnementale, il faut aussi proposer des projets bas carbone aux bailleurs sociaux à qui, parfois, on vend à 2100, 2200 euros du mètre carré. Et à ce coût-là de prix de vente de logement, on ne peut pas construire à 2 000 euros du mètre.
Ben non, ben, comment c'est pas possible.
Ben, nous, on a des solutions.
Eh ben, chapeau, hein. Chapeau. Et mais, alors, je digresse un tout petit peu. Les matières premières, vous n'avez pas la main dessus. Il y a des flambées sur les matières premières. On a des problèmes d'inflation, l'énergie. Avec les conflits géopolitiques, ça a un impact ou pas?
Alors, en fait, pour nous, ce qui est important, le message qu'on essaye de faire passer, c'est qu'il n'y ait pas de dogmatisme dans le choix des matériaux. On parle énormément du bois.
Si c'est du bois, c'est du bois. Si c'est du béton, c'est du béton.
En fait, il faut viser l'objectif. L'objectif, c'est le seuil 2028, le seuil 2031. Ben, en fait, nous, on s'adapte au territoire, à l'architecture, bah, aux attentes des collectivités. Mais par exemple, il y a des matériaux qui sont historiquement existants, comme la biobrique, qui sont très peu carbonés et très économiques.
Alors, un peu de culture pour ma culture perso. Une biobrique, c'est quoi ?
Ah, c'est de la petite maçonnerie à base d'argile.
Ah, c'est génial, ça.
Et donc, c'est quelque chose qui... qui n'est pas peut-être le plus sexy comme matériau, mais qui marche très bien pour construire la carbone.
Non, mais en fait, et en plus, il y a même des... Quand j'étais à Roland-Garros, à la rentrée économique du MEDEF, vous connaissez la société Materup, ça ne vous dit rien ? Ils ont sorti une nouvelle formule de béton,
béton d'argile.
Du béton d'argile à froid. Vous les connaissez ?
Bien sûr.
C'est génial ce qu'ils font.
C'est hyper intéressant. Et c'est aussi, c'est très local, c'est ancré dans un territoire.
C'est vraiment, on est à la fois sur de l'économie circulaire, et on est vraiment sur de la vitalité économique locale. On va continuer là-dessus, mais extrêmement intéressant ce que vous faites, c'est Pierre Val. Robin, est-ce que... Alors là, pour le coup, vous avez une problématique différente. Hein, parce que bon, vous construisez quand il peut, quand vous faites. Vous rachetez des fois en bloc des opérations, mais vous gérez surtout un portefeuille qui est considérable. Donc là, je comprends mieux la vie, le pilotage dans la vie, parce que pour vous, c'est essentiel. Vous avez des usagers qui sont vos clients. Bien évidemment, et la performance énergétique, comme le confort de vie, parce que là, aujourd'hui, on parle plus de confort de vie qu'on en parlait avant. On parlait de performance énergétique et de coût énergétique. Aujourd'hui, on parle de santé publique, hein, quand même. Il faut le dire. Vous raisonnez dans la durée à l'échelle d'un patrimoine. Par exemple, pour un bailleur, c'est quoi la priorité bas carbone ? C'est de construire mieux et de transformer également massivement l'existant. Parce que dans le portefeuille de Polylogie, donc c'est les différentes filiales du groupe, il y a quand même aujourd'hui une partie de votre parc qui est un peu obsolète, que vous devez transformer. Ça se passe comment ?
Bah, tout simplement, pour un peu avoir un ordre de grandeur, aujourd'hui au sein du groupe Polylogie et sur la partie pôle social...
Excusez-moi, je coupe, sans compter que ça coûte un bras.
Et
quand on voit la moyenne des prix à l'allocation, que vous faites du loyer intermédiaire, vous faites du loyer, vous êtes une entreprise sociale de l'habitat. C'est pas simple hein, à financer.
Non, c'est pas simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, pour un ordre de grandeur, un peu plus de 1500 logements réceptionnés par an et plus de 3500 logements réhabilités par an. Ça, c'est les chiffres de l'année 2025.
Et, c'est énorme, ça.
C'est énorme, oui. On se retrouve à devoir, du coup, dans un premier temps, respecter la réglementation, que ce soit l'éradication des passoires thermiques, et derrière aussi, pour la construction neuve, respecter la RE20, voire l'anticiper, au même titre que peut le faire Pierre Val. Et c'est là où, derrière, du coup, en fait, on a un équilibre qui est assez difficile à obtenir, mais aujourd'hui on réussit à rester dessus, c'est de pouvoir réhabiliter notre patrimoine pour pouvoir donner ce confort de vie auprès de nos locataires. Parce qu'encore une fois, voilà, on accompagne nos locataires au moment où ils vont intégrer les logements, qu'ils soient neufs ou existants. Et ensuite d'ailleurs on va les accompagner sur l'ensemble de leur parcours résidentiel pour qu'ils puissent en fait tout simplement bénéficier du logement dans les meilleures conditions et préserver au maximum leur pouvoir d'achat et leur portefeuille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va intégrer du coup des seuils bas carbone, de l'anticipation de différents jalons de la RE 2020 avec différents certificats en plus, et sur l'accompagnement tout au long de leur parcours résidentiel, en fait, on va les accompagner derrière pour consommer le moins possible à travers des programmes de réhabilitation, de remplacement de composants ou autres.
Et des outils de pilotage, je suppose,
et des outils
numériques, peut-être d'intelligence artificielle.
Exactement, on développe des outils de pilotage sur notre suivi de consommation énergétique. Dans le groupe Polylogie, on a deux sociétés qui sont certifiées ISO 50001, ce qui nous permet d'avoir un système de management de l'énergie, de contrôler et de bien gérer nos consommations énergétiques. L'objectif, après, c'est de pouvoir déployer en fait, ce système de suivi énergétique sur l'ensemble du patrimoine pour accompagner et pour pouvoir contrôler aujourd'hui les consommations, en fait, tout simplement, pour pouvoir les réguler, pour ne pas tomber dans les excès et préserver l'ensemble de nos locataires.
Et pour le financer, comment vous faites ?
Pour le financer, c'est assez simple. On va chercher différents financements qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit subventions.
Alors, certificat d'économie d'énergie.
Certificat d'économie d'énergie pour tout ce qui est rénovation.
Oui, et travaux éligibles. Donc,
éligibles, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des rénovations globales.
Ça peut être aussi à des raccordements au réseau de chaleur urbain, par exemple.
Exactement. Raccordement au réseau de chaleur urbain, tout en pensant à isoler en amont pour pouvoir mettre en avant, dans un premier temps, la sobriété énergétique avant de décarboner le vecteur énergétique.
Est-ce que ça peut être également, question néophyte, l'utilisation d'un mix énergétique selon les territoires, là où il faut de la méthanisation, due à la géothermie, peut-être se raccorder au réseau urbain, etc. Ça aussi.
Totalement.
Très opportunément, territoire par territoire, pas de vérité dogmatique
non.
qui s'appliquerait uniformément à tout le
monde. C'est exactement ça. On a mis en place un plan climat-biodiversité avec des objectifs propres à chacune des sociétés. On ne va pas demander à une société qui ne présente pas de réseau de chaleur de se raccorder obligatoirement à des réseaux de chaleur, de devoir s'adapter à leurs opportunités locales.
C'est hyper ingénieux. Je suis étonné et assez stupéfait positivement sur les volumes que vous faites. C'est pas évident hein, pour les bailleurs sociaux, Rodolphe, hein, quand on voit ces résultats. Violette, quand vous arrivez, en tant qu'experte, sur une opération, néophyte aussi, mais à quel moment se joue réellement la trajectoire carbone ?
Dès le tout début, quoi. Vraiment, même dès le dessin architectural, en fait.
Et vous êtes sollicité là-dessus ? On vous sollicite, on cherche votre expertise ?
Alors, ça va dépendre des projets, je pense, oui. Et potentiellement les maîtrises d'ouvrage aussi.
Oui,
parce que, par exemple, l'hypercolé avait été très intéressant et j'aimerais bien que tous les promoteurs disent la même chose sur...
Ben oui. Et les bailleurs sociaux.
Oui, aussi, bien sûr, évidemment. Et les bailleurs sociaux, c'est pas le constat que j'ai. J'aimerais beaucoup que ce soit comme ça tout le temps.
Ça m'intéresse, justement. Est-ce que votre constat, il est plutôt critique ? Aujourd'hui, vous vous dites, on n'y est pas encore. Alors, on ne va pas les accabler parce qu'économiquement... L'an dernier, il y a 30% des promoteurs qui ont disparu. Il faut quand même le dire. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais quand même, c'est important de... Pour vous, il y a vraiment un gap important entre le discours, finalement, si je peux m'exprimer ainsi, et la réalité, quoi.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que la plupart des promoteurs avec lesquels je travaille subissent plus le bas carbone que le porte, comme pourrait...
J'ai la même sensation, souvent. Ils le prennent comme une contrainte, presque comme un coût réel. Et ils n'en mesurent pas l'impact. Ce qui serait intéressant, c'est de le voir comme un investissement.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
C'est du haut de bilan, finalement, quelque part. Et je pense que ça permettrait d'avoir plus de sérénité.
Mais c'est sûr que je pense que pendant la crise, la crise n'aide pas à pouvoir se projeter de cette manière, quoi.
Quand est-ce qu'on prend les décisions ? Elles sont prises, justement, sur cette trajectoire carbone, très en amont ? Dès la conception du projet, l'archi, comment ça se passe ?
En fait, on peut les intégrer un peu à tous les stades, mais c'est juste qu'à certains stades, on sera un peu bloqué, on n'aura plus trop de levier, quoi.
À quel niveau vous intervenez quand on fait appel à vous ? Dès le début ?
Oui, nous, parfois, dès le concours, on peut intervenir pour donner les trajectoires.
Dès le concours ?
Oui, pour donner des points d'alerte. Là, il y a trop de surface vitrée, là, il y a trop de développé de façade.
D'accord.
Des points comme ça d'alerte où on sait qu'après, plus tard, ça ne passera pas. Parfois, ça peut être d'être permis de construire, histoire de ne pas figer un bâtiment qui ne sera...
Est-ce que je peux vous solliciter aussi pour gagner un concours, pour m'aider à gagner un concours ?
Oui, bien sûr, ça nous arrive aussi.
Dans toutes les phases. Dans toutes les phases. Qui sont vos donneurs d'ordre, vos clients naturels ? C'est qui ? C'est très divers ? C'est quoi ? C'est un archi ? C'est un promoteur ?
Non, c'est principalement les promoteurs immobiliers, nous, qui viennent nous chercher.
Directement ?
Oui, c'est ça. Parfois, ce sont les architectes, mais c'est un peu plus à la marge. C'est vraiment plutôt les promoteurs.
Avec la Bérésina et l'hécatombe de la promotion immobilière, vous arrivez à maintenir votre activité quand même chez Amodem ?
Oui.
Ça n'a pas trop d'impact, non, je veux dire, sur le...
On très bien. Après, je pense qu'on a de la chance et je pense que nos directeurs ont su quoi faire pour que on survive. Mais en fait, comme le bas carbone est un peu maintenant au cœur de tous les projets,
ça, c'est clair.
Nous, on a la chance en fait, d'utiliser ça. Quoi.
D'accord. Dans les projets d'aménagement territoriaux.
Oui, bien sûr. Toutes les échelles.
Oui, à toutes les échelles. Toutes classes d'actifs confondues, résidentielles, mais ça peut être du tertiaire, l'industriel ou de la logistique, par exemple.
Oui, nous, on fait surtout chez Amodev du logement, mais après, ça,
oui,
on
aime beaucoup. Oui, la trajectoire, projets, absolument. D'accord.
Tout à fait.
C'est vraiment du quartier de ville. Justement, alors c'est intéressant ce que vous dites, Rodolphe. Vous avez une position intéressante, parce que chez Prestataire, vous voyez passer des opérations, des maîtres d'ouvrage et des niveaux d'ambition très différents entre les ambitions qui sont aujourd'hui affichées, la réalité des opérations que vous évaluez. Ils se situent où réellement les principaux écarts ?
Les écarts, ils arrivent, en fait, on les perçoit dès la prise de la conception qui peut être parfois tardive et de l'anticipation du carbone. Les maîtres d'ouvrage qui arrivent un peu trop tard dans cette décision de décarboner, ont forcément un métro de retard et ont du mal à rattraper ce retard à la conception parce que économiquement ça n'a pas été anticipé et qu'il est compliqué d'atteindre le niveau réglementaire. Donc on va rattraper bon an mal an en conception ce que l'on peut.
Et après, on va rattraper, dans le sens rattraper.
En disant, de toute façon, on doit être au moins au seuil réglementaire.
Ah, ouais.
Donc il faut parfois corriger le tir sur ce qui était fait dès le départ pour rattraper ce niveau réglementaire.
C'est réversible ?
Alors, à la conception, c'est toujours réversible.
Oui.
Tant qu'on n'a pas commencé à couler, mais c'est coûteux. C'est toujours réversible. Et après, bien souvent, on s'aperçoit, nous, en tout cas, en tant que certificateur, qu'il y a des écarts entre la conception et on dira la livraison des opérations. Lorsqu'on retravaille les études réglementaires, notamment, et les études ACV, on a évidemment parfois des écarts qui arrivent entre la conception et la réalité, parce que le marché est passé par là-dessus et qu'il y a eu des économies et des choix d'économies de produits ou architecturaux qui ont dû être faits et qui peuvent remettre en cause le choix carbone. Donc, en réalité, tout le monde l'a dit ici, le vrai mot-clé, c'est l'anticipation. Le carbone, beaucoup de promoteurs le subissent parce que c'est encore nouveau, même si la RE 2020 est aujourd'hui en place depuis 5-6 ans, mais à l'échelle du bâtiment, c'est quand même encore récent. Donc tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit bailleurs ou promoteurs, qui ont anticipé ces réglementations, qui ont anticipé ces seuils, qui font des études très en amont, arrivent à sortir des opérations, heureusement, qui sont avec des seuils soit bien au-delà du réglementaire pour anticiper les choses et surtout faire vivre un bâtiment pendant 50 ou 60 ans, voire même au seuil juste réglementaire. Mais effectivement, le mot d'ordre, Violette l'a très bien dit, c'est dès la phase concours ou la phase permis, c'est l'anticipation. En réalité, je fais juste une aparté rapide, l'ACV, hein, donc l'analyse de cycle de vie, en fait, c'est le cœur, c'est le moteur de tout ça qui vient déterminer dès la phase amont
cycle de vie,
les choix de produits
architectes. Oui, voilà,
cycle du bâtiment. C'est ce qui vient décider, en fait, dès la phase permis, on va dire, les différents choix et les méthodes auxquelles on pourrait y arriver. On fait tourner, en fait, des modèles pour, évidemment, en fonction des coûts financiers que l'on a sur l'opération.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on parle de cycle de vie pour des bâtiments.
Oui.
Et que moi, à l'âge que j'ai, vénérable, j'ai connu une époque où quand j'étais en gestion d'actifs, que je pilote toujours, mais jamais on imaginait qu'un immobilier puisse avoir un cycle de vie, tu vois. On n'imaginait pas que c'était un métabolisme lent. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, j'observe une évolution extrêmement favorable. Et c'est pour ça que la place de l'usager, aujourd'hui l'usage, finalement, quelque part, on est passé de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise des usages.
Oui.
Et je pense que c'est un vrai sujet.
Mais c'est surtout que si les promoteurs ou les bailleurs font les efforts, on va dire, dès le départ, et que tout ça n'est pas anticipé, dans 15 ans, le bâtiment, il va mal vivre, il va falloir le rénover, le réhabiliter, éventuellement le faire tomber. Donc là, le bilan carbone, il est par terre, quoi.
C'est clair.
Donc aujourd'hui, ils anticipent tout ça pour une durée de vie sur 50, 60 ans, voire plus.
On va raisonner aussi en économie, hein, business. Hein. C'est aussi un moyen pour des promoteurs, des entreprises familiales. Moi, j'aime beaucoup les entreprises familiales. Parce que ça veut dire qu'elles ont résisté au chant des sirènes parfois. Et il n'y en a pas assez dans notre pays, malheureusement. C'est aussi une façon de changer de métier. Hein. Le promoteur versus ce qui se passait hier, où on a rasé gratis pendant 15 ans, faut être honnête, hein, on y était tous. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose, hein, justement. Alors, je vous propose un élément, c'est que on va essayer d'entrer un peu plus dans le sujet sur les leviers qui fonctionnent. Par exemple, je vais vous obliger à choisir quelques leviers. Vous voyez, comme ça, on va être égal. Levier pour réduire fortement l'empreinte carbone d'un projet, lequel vous garderiez. Alors, j'en ai chiffré quelques-uns et vous me dites si ça colle. Et on se fait un petit tour de table. La conception, les matériaux, le réemploi, l'énergie et la rénovation de l'existant. On va commencer par Léa.
Alors, la conception, hyper important, comme l'a dit Violette, en premier.
Donc, d'accord.
Hyper important. Voilà. Et quelque chose qui n'est pas mentionné quand même, hein, et c'est là, c'est la formation des équipes. Et c'est la technicité, c'est le choix des fiches FDES. Ça peut aller vraiment avoir un impact très important. Il y a des fiches qui sont générales et qui sont très pénalisantes. Il y a des fiches individuelles. Et là, c'est du temps à passer pour les équipes. C'est dur au début.
Ouais.
Et après, une fois qu'on s'y est mis, ça va.
C'est vachement génieux. Là, vous êtes en train de donner un max de tuyaux à tous les...
Je ne devrais pas.
Non, mais c'est super. À tous les... Non, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, l'unité, c'est ce qui permettra à l'ensemble de la profession de surpasser cette crise. Donc, c'est extrêmement concret. Alors, justement, on va parler à l'experte. Vous, Violette, si on devait choisir justement le critère ou le levier qui serait le plus essentiel, vous diriez quoi ?
Alors, ça va être... Moi, je pense que c'est plutôt dans... Parce que quand on parle de bilan carbone d'un bâtiment, il y a son bilan carbone de sa construction et de son usage. C'est un peu ce qu'on parlait au début.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Donc, moi, j'irais plutôt partir sur les produits de construction. Et quand on regarde le bilan carbone de la construction d'un bâtiment, on se rend compte qu'il y a un peu trois gros postes qui représentent la majeure partie des émissions carbone. Et dans ces trois gros postes, on a le mode constructif. Donc à mon sens, ce serait plutôt d'aller travailler sur le mode constructif.
Le mode constructif, d'accord.
Oui, tout à fait.
Très bien.
C'est un des trois gros postes le plus émetteur. Et parfois, en fonction des projets, de leur configuration, le poste le plus émetteur.
Ouais.
Donc à mon sens, le mode
Moi, je pense que c'est ce que j'aurais choisi également. Oui, le mode constructif. Parce que c'est tellement révolutionnaire ce qu'ils font en ce moment. C'est extraordinaire. Vous avez entendu parler de la tour Hyperion. Tu la connais, la tour Hyperion, Rodolphe? C'est incroyable. C'est en bois. J'ai interrogé hier en interview un type formidable, c'est Jean-Paul Viguier. Vous connaissez Viguier Architecture, qui a fait de très belles opérations. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc, comme quoi, finalement, le mode constructif vit une révolution parce qu'il y a une crise et parce qu'il faut innover, bien évidemment. Robin, justement, le choix.
Le choix, il est assez partagé parce que si aujourd'hui on prend l'exemple de notre bilan carbone du groupe Polylogie.
Ben oui.
Un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la maîtrise d'ouvrage. Et les deux tiers restants sont liés à l'existant, à l'exploitation de l'existant. Donc aujourd'hui, pour réduire les un tiers, je rejoins Léa, on est obligé de mettre en avant la conception « plus on intègre le carbone, mieux c'est ». Mais derrière aussi, on doit rénover l'existant. Et rénover l'existant, c'est, pour être totalement honnête, un autre sujet, un autre métier qui est encore une fois est en train d'évoluer. Et ça va être le sujet où on a le plus de marge de progrès, en fait, et de marge de gains énergétiques et de gains carbone.
Parlez bien dans la micro.
Et de gains carbone, pardon.
Oui.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tant que bailleurs, dans notre position, en tant que bailleurs social, on va exploiter, on va gérer les logements et aujourd'hui, la rénovation de l'existant est primordiale.
Mais ce qui est bien dans votre métier, dans vos métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers, c'est que vous construisez, vous administrez et vous gérez la vie du bâtiment.
Exactement.
Mais vous avez aussi un portefeuille d'anciens et des fois très anciens. Et vous rénovez. C'est-à-dire que vous êtes sur toute la chaîne des métiers, finalement. C'est génial. Hein, le proportier, de l'asset, de la réno, de la technique. Et je trouve ça extrêmement intéressant. J'allais dire, pour des jeunes qui veulent rentrer dans le métier, je veux dire, c'est une école pratique extraordinaire. Rodolphe, si je vous propose à tous comme ça cette affirmation. Techniquement, on sait déjà faire du bas carbone. Pas de problème, on est d'accord?
Oui. Hein,
le problème aujourd'hui, c'est de savoir si on peut le faire à un coût acceptable et à grande échelle. Parce que à chaque fois qu'on pose la question... Non mais franchement, j'ai fait deux conférences sur le sujet hier. Ce soir, je fais les pitchs. On parle de l'économie. Il ne peut pas y avoir de rénovation sans modèle économique soutenable.
Oui.
Alors quand on dit que ça coûte trop cher, que ça coûte cher, que c'est pas acceptable et que finalement, il n'y aura pas de sortie, je parle surtout de la réhab. Hein, de la réhab. Vrai, faux?
Alors c'est vrai. Faut être honnête et je rejoins les propos de Robin. Dans le cadre de la décarbonisation, c'est compliqué à dire.
Décarbonation. Carboniser, c'est...
Ouais, t'as raison.
C'est violent.
On sait que construire du neuf, c'est 1% du parc qui est renouvelé tous les ans.
C'est ça, à peine.
Donc, en réalité, le vrai enjeu, il n'est pas forcément là. Et on l'a tous dit ici... Sur du neuf, lorsqu'on anticipe bien, on sait construire de façon décarbonée.
Donc l'enjeu, c'est sur l'existant.
L'enjeu, c'est sur l'existant. C'est tous les bâtiments que l'on a aujourd'hui qui sont vieillissants, qui sont à rénover, où ça fait 40 ans de politique publique où on ne fait que reporter, on va dire, les échéances. Et donc, financièrement, ça coûte cher parce que déjà, les maîtres d'ouvrage ne sont pas vraiment accompagnés d'un point de vue aide financière, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le neuf. Ça, c'est déjà une chose. Et les solutions techniques sont, on va dire, moins développées, même si, effectivement, Robin le dit, on y va et on commence à s'y intéresser fortement. Pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'aujourd'hui, nos bâtiments subissent le réchauffement climatique et donc sont détériorés de plus en plus tôt et de plus en plus fort. Donc, on est par défaut aussi obligé de rénover des bâtiments et de s'y intéresser fortement. Donc, les solutions techniques commencent à arriver pour la décarbonation. Donc voilà le vrai gain, mais aujourd'hui financièrement ça coûte cher.
Et
c'est bien pour ça qu'on a du retard à l'allumage parce que les financements on ne sait pas comment les trouver,
Rodolphe,
et comment résoudre le problème.
Je vais compléter pour alimenter le débat. C'est très important ce que tu dis. On dit que le bas carbone coûte plus cher. Alors c'est vrai que tous ceux que j'ai interrogés et les opérations que nous avons faites ainsi que les opérations observées établissent un coût moyen supérieur par rapport à constant. Maintenant, est-ce qu'on parle de coût d'investissement? Maintenant, autre chose. Entre 15 et 25%. Très clair. Notamment, le changement de destination. Bureau, logement,
ouais.
qui est un vrai sujet. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que, bon, je vais commencer par Violette, est-ce que le fait que ce soit plus cher, c'est le fait qu'on n'est pas du tout à l'échelle, vu le volume, hein, quand on voit les bâtiments existants à transformer, c'est considérable. Si on devait passer à une massification, est-ce que mécaniquement, on pourrait faire baisser les prix ? Si demain, on doublait carrément notre capacité.
Mais en fait, le bas carbone, je pense que si on le fait intelligemment, on n'est pas forcément obligé d'avoir autant de surcoûts que ce qu'on entend. Parce que, par exemple, ce qui coûte, ça va être la matière.
Oui, bah oui.
Si on ne met pas la matière, oui. On n'a pas de coût et on n'a pas de carbone.
En réhab, toutes les opérations qu'on a vues, en moyenne, c'était entre 15 et 20% au-dessus du prix. Quoi.
Il faut distinguer la construction neuve et la réhabilitation.
Oui, ça c'est sûr.
Oui. Je parle de la réhab. Je parle uniquement de la réhab. Alors sur le neuf, vous êtes tranquille. Parce que dès le début de la conception, vous êtes d'accord, forcément, ça ne coûte pas forcément plus cher. Sur la réhab, vous travaillez sur des projets de réhab?
Oui, tout à fait.
Sur la réhab, comment on fait pour réduire les prix, quoi? Est-ce que si on devait, par exemple, un peu, vous savez, c'est un peu comme les... Bon, tu te rappelles les magnétoscopes? Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Bon, bah, quand les CD sont arrivés, ça a été une révolution, ça coûtait, je sais pas, un lecteur Blu-ray, ça coûtait 1 500 €. Aujourd'hui, maintenant, pour 100 €, on a un lecteur Blu-ray. Est-ce que si on devait aujourd'hui passer à l'échelle, est-ce qu'on arriverait à faire baisser les prix?
Voilà, mais je pense que déjà, rien qu'en passant à l'échelle, ça fera aussi diminuer les coûts, en fait. Parce que là, les problèmes qu'on a avec la réhabilitation, la rénovation, c'est que c'est très ponctuel. À chaque fois, c'est des projets qui seront différents des autres. On n'a pas trop de réplicabilité en rénovation. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai sur mes projets. C'est que je ne peux jamais répéter ce que j'ai fait sur un autre projet parce que les projets sont tous très différents. Bah, en fait, l'existant, ils sont tous différents.
Spécificité du bâtiment fait que...
Moi, c'est ça qui fait qu'en fait, on n'arrive jamais à reproduire les mêmes schémas.
Oui, mais la technique est la même. La technique de réhab reste la même des métiers. C'est juste les aspérités ou la nature même du bâtiment qui change la programmation. Je vais vous donner un exemple pour bien illustrer. Est-ce que vous avez entendu parler de l'opération de la rue d'Arreau dans le 14e arrondissement, un projet mené par Gessina et Vigui Architecture? C'est l'ancienne Subtelecom, un bâtiment qui a été transformé en 120 logements. Pour équilibrer l'opération financièrement, ils ont surélevé. Ils ont rajouté deux niveaux. Et du coup, l'opération est devenue rentable grâce à l'optimisation du mètre carré.
Mais ça, du coup, on ne pourra pas le faire partout. En fonction des contraintes réglementaires de PLU, par exemple, en fait, vous ne pourrez pas le faire partout. Donc, c'est un très bon exemple pour montrer que ce n'est pas réplicable, justement, et que ça va vraiment dépendre
La loi Elan permet de le faire. Et la loi Daubier a renforcé le dispositif, quand même.
Oui, mais je ne pense pas non plus que ce soit réplicable, en fait, à tous les projets.
Alors, je vais aller plus loin dans la question, hein, parce que vous êtes expert. La surélévation, la verticalité, ce n'est pas une solution pour décompresser la crise du logement sans forcément urbaniser les sols?
C'est sûr que pour répondre à la densification, la surélévation, oui, tout à fait intéressant. Ça, c'est sûr.
Parce que le cadre juridique, il existe maintenant. Oui, il n'est peut-être pas suffisant.
C'est vrai que le cadre réglementaire de la rénovation est quand même un peu vague.
Oui. Enfin, alors justement, la surélévation, c'est devenu un métier. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un bailleur social aujourd'hui qui est incroyable et qui a racheté une boîte qui fait de la surélévation des copropriétés urbaines et des bâtiments. Cette boîte, elle s'appelle Upfactor, et elle a été rachetée, il me semble, par Polylogie.
Exactement.
Oui, mais alors justement, donc, question, réponse. Voilà, du coup, vous avez la réponse.
Oui.
Ah, oui.
Nous, on a la réponse. C'est pour ça qu'en intégrant Upfactor dans le groupe Polylogie, ça nous a permis d'auditer une majeure partie de notre patrimoine existant et d'identifier le potentiel de surélévation. Et l'objectif, après, c'est de croiser les résultats de cet audit avec la programmation de travaux et de pouvoir identifier, du coup, comme vous l'avez très bien dit, de nouveaux leviers de financement et de nouveaux apports financiers, en fait, pour pouvoir financer, en fait, ces rénovations, que ce soit, du coup, dans le patrimoine social, mais aussi demain dans le patrimoine privé, pour pouvoir, en fait, aussi financer les copropriétés qui doivent être rénovées. Lui, c'est un levier qui répond à plusieurs problématiques. Il n'y a pas de solution parfaite, évidemment. Il y a une multitude de solutions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais aujourd'hui, voilà, la surélévation est un des leviers au niveau sobriété foncière, développement bas carbone, rénovation aussi du patrimoine existant, qui répond à plusieurs critères et qui nous permet de nous accompagner, en fait, dans notre développement, dans notre rénovation.
Et surtout, les élus qui vous soutiennent, parce que c'est une solution pour ne pas urbaniser trop le sol. Qu'on est à l'heure où, effectivement, moi, je trouve que c'est salutaire. On est d'accord que l'urbanisation, faut qu'elle s'arrête à un moment donné, puisque on l'a vu cet été. Hein. On l'a vu hein, sur les terres arables qui sont aujourd'hui grignotées, bien évidemment, la préservation de la biodiversité, mais aussi des nappes phréatiques. C'est intéressant parce que toutes ces notions eau, biodiversité, nature, c'est des notions dont on ne parlait pas, il faut être honnête. Hein. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les problématiques de gestion des denrées alimentaires sur, par exemple, la production de fruits et de légumes, tout simplement, mais aussi les ressources en eau, il y a certaines régions de France, s'il n'y a pas dans la conception du bâtiment le travail sur la ressource en eau, ben, il n'y aura pas d'autorisation d'urbanisme. Donc on voit bien que ces éléments-là sont importants. On va rapidement passer au dernier sujet sur lequel je voudrais avoir votre avis. C'est justement arriver sur la massification qui est voulue par tout le monde. Massification, comment on pousse les acteurs, comment on est arrivé au moment où le marché peut progressivement prendre le relais, surtout des notions prospectives à l'heure où franchement il y a une vraie morosité ambiante dans le métier. Pour plusieurs raisons, pour des raisons normatives, réglementaires bien évidemment, mais également pour des raisons politiques. On ne va pas faire de politique, mais on est à l'aube d'une élection majeure qui va redessiner. Et on sait qu'aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres, hein, l'attentisme en termes d'investissement immobilier, des projets aujourd'hui qui ont été déclassés ou simplement déportés dans le temps, et à l'heure où les Français aujourd'hui sont à peu près hein, 2 700 000 foyers en attente d'un logement, 4 millions de personnes mal logées, 330 000 personnes sans domicile fixe à Paris, dont 2 000 enfants qui ont moins de 5 ans et qui dorment à la rue tous les jours. C'est intolérable, ça. Donc on est vraiment sur une équation presque schizophrénante entre un marché bloqué et une demande extrêmement forte en matière de logement. Question donc de conclusion pour tous. Pour massifier, il faut pousser les acteurs. Comment on est arrivé au moment? Quels sont les éléments prospectifs pour arriver à l'échelle? On va parler avec vous, l'experte Violette, sur votre analyse un peu plus économique, peut-être plus macroéconomique.
Alors, répondre à cette question...
Ce que vous feriez à la place, peut-être, des opérateurs, ou ce que vous leur diriez de faire si vous étiez aux affaires?
Répondre à ces questions en étant apolitique va être un peu compliqué, oui. Pense.
On va essayer... vous êtes apolitique, donc c'est bien. C'est bien.
C'est pas ce que tu dis, mais que j'allais devoir répondre de manière apolitique, en tout cas.
Mais si vous voulez avoir une réponse politique, vous êtes la bienvenue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des positions. Tout est politique en matière de logement. J'étais la semaine dernière avec le ministre du Logement sur ces sujets. Aujourd'hui, pour passer à l'échelle, on a besoin d'être aidé par le pouvoir politique. Les élus locaux nous donnent... les élus locaux ont beaucoup évalué, tu le sais, Rodolphe, sur les PLU. Vous le savez également, Léa, on a besoin des élus. Ils nous aident, bien évidemment. Et nous, on est les opérateurs. Ce n'est pas les opinions politiques qui nous sont, mais simplement une réflexion juste qui nous permet de le faire. Je vous donne un exemple. La loi Elan, la réforme de Cécile Duflot, d'Emmanuel Cosse, de Normandie, Périssol, Meignery, etc., etc., sont des décisions politiques qui nous ont permis d'aller justement sur ces éléments-là. Ces contraintes normatives dont on parlait tout à l'heure et réglementaires, elles viennent du politique. Donc votre avis, et vous dites absolument ce que vous souhaitez.
À mon sens, ça doit aussi passer par... Enfin, la massification doit passer par la réglementation et l'évolution de la réglementation. Parce que la mise en place de la RE2020 a été très intéressante et très positive pour mettre en place la massification du bas carbone. Ça a été un peu difficile de suivre. Donc à mon sens, la réglementation, la RE2020 doit aussi donner de l'aide et de la bonne manière aux acteurs de l'immobilier pour pouvoir avoir cette massification, parce que on a vu quand même quelques révisions de la RE2020, etc. Mais à mon sens, ça n'allait jamais pas forcément dans le bon sens pour aider cette massification. Enfin, j'ai en tête le décret Rivaton, je pense qu'on en a tous entendu parler, qu'on a beaucoup attendu, surtout nous en tant que bureau d'études, de regarder qu'est-ce qui...
Il est sorti le décret ?
Oui, il est sorti au printemps de mémoire et applicable, je crois, depuis le 1er juillet ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu plusieurs dates en même temps, ce qui était un peu flou. Et nous, on attendait beaucoup de ce décret. On s'attendait justement à pouvoir potentiellement faire de la massification. Et j'avoue que moi, mon avis en tant que bureau d'études, c'est que c'était pas suffisant, ça n'a pas forcément été fait de la bonne manière, et que du coup, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place des ateliers de travail. Nous, on fait beaucoup ça avec le Hub Bas Carbone de Carbone 4. Mm-hmm. On travaille sur plein de thématiques différentes sur le bas carbone. On est plein d'experts de différents univers qui sont réunis. On a des discussions qui sont vraiment très intéressantes. À mon sens, on arrive vraiment à trouver les vraies problématiques et des leviers ensemble. Et ben, en fait, je pense que c'est ce genre de travail qui devrait être mis en place, mais pas la réglementation, pour la faire évoluer dans le bon sens, parce que là, à mon sens, elle n'évolue pas pour la massification.
Très clair. Robin, rapidement.
Il faut faire évoluer la réglementation et accompagner clairement les maîtrises d'ouvrage, les bailleurs, etc. De surcroît, nous, en tant que bailleurs sociaux, on est soumis à commande publique, donc il faut aussi nous accompagner sur les évolutions réglementaires, sur les modèles financiers derrière. On a besoin d'avoir une évolution. Comme on a dit, les métiers évoluent, donc le cadre réglementaire, le cadre normatif doit aussi évoluer derrière. L'ARE 2020 est très bien, l'éradication des passoires énergétiques est très bien, mais il faut potentiellement aller au-dessus et aussi mettre les moyens pour pouvoir en fait répondre à ces réglementations et anticiper et aller au-delà de ces réglementations.
Finalement, vous partagez presque le même point de vue. Intéressant. Léa.
Alors nous, en tant que promoteurs, on a un discours qui peut un peu étonner, mais on ne veut surtout pas un assouplissement de la réglementation. On trouve que...
Vous allez vous faire des amis sur le...
Non, mais en fait, le fait que ça soit progressif, on trouve ça très intéressant. Ça permet quand même à chacun d'y aller progressivement, de comprendre, d'apprendre. Et nous, on a des opérations aujourd'hui qui sont en seuil 2031, voire en seuil 2031, moins 10%. Donc, on ne veut pas en fait que ça freine. Par contre, je rejoins complètement Robin sur l'accompagnement. Pour moi, il faut comprendre comment c'est calculé, parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et il ne faut pas laisser ce sujet au bureau d'études d'environnement. Il faut que tout le monde s'y intéresse, aussi à l'échelle en fait, des directions générales. Quand on ouvre le capot, on comprend quand même les choses. Et c'est un travail qui est collectif, partenarial. Et donc, la chose aussi que moi, j'aimerais bien intégrer si on était aux manettes, c'est qu'on ne soit pas focalisé uniquement sur le carbone. Parce que si on résout la crise du carbone, mais qu'on ne résout pas celle de la biodiversité ou des ressources, on va quand même aller dans le mur.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, absolument. Voilà. L'eau, par exemple.
Complètement. Il y a le stand d'Odali sur le salon qui est hyper intéressant, absolument, sur la route des eaux grises. Voilà. Et donc, pour moi, il faut, sur une opération, avoir des engagements sur le carbone, la biodiversité, les ressources et, vu qu'on n'est pas très bien parti sur le carbone, également le confort d'été. Et donc, pour moi, il faut être généraliste et pas dogmatique.
C'est pour ça que les certifications sont là.
Oui.
Et qu'elles nous accompagnent, ça aussi.
Merci. Rodolphe, très rapidement, il nous reste 30 secondes.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Et pour finir là-dessus, pour moi, il y a deux éléments. C'est faire évoluer la réglementation dans le cadre de la réhabilitation. Aujourd'hui, on a une réglementation, notamment thermique, énergétique, qui est trop vieillissante. Et évidemment, les aides financières qui vont derrière. On applique ces solutions-là depuis 30 ans sur le logement neuf. On y arrive bon an, mal an. Effectivement, il y a des crises qui n'ont pas aidé tout ça, mais on y arrive quand même. Aujourd'hui, c'est la rénovation sur le sujet. Et on a aujourd'hui des réglementations qui sont éparses, un peu sur la biodive, un peu sur la gestion de l'eau, un peu sur les dents creuses pour pouvoir surélever. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment dans un cahier des charges défini avec une ligne directrice générale dans une seule et même réglementation, notamment environnementale et thermique, pour aller rénover les bâtiments. Le vrai enjeu, il est là. Et si on n'y va pas, on s'en va vers des gros problématiques qu'on a déjà connues cet été et qui vont s'accentuer. Mais effectivement, les bailleurs comme les promoteurs sont aujourd'hui dans une crise financière. Donc si le gouvernement prochain, en tout cas, ne met pas la main à la poche, on s'en va vers des gros problèmes. Il faut impérativement une réglementation pour que tout le monde ait un cadre commun et aller, comme on a fait pour le neuf, un cadre commun, et les certificateurs vont au-delà pour accompagner les maîtres d'ouvrage toujours vers le futur.
Merci beaucoup, c'est une très bonne conclusion justement, parce que encore une fois, la main sera dans le camp des élus, des politiques du logement, même si on est pas politique, de toute façon finalement on est tous un peu politique. Il y a une réalité, c'est qu'il faut loger tout le monde. Qu'il n'est pas tolérable de laisser repousser des bidonvilles. Vous savez, dans les années 70, il y avait 300 bidonvilles en France. Et c'était éradiqué dans la fin des années 80. Vous n'étiez pas né à l'époque. Eh bien, vous savez combien il y en a aujourd'hui? Il y en a 200 en France, des nouveaux bidonvilles. Vous les avez jamais vus? Ben, si vous voulez les voir, vous allez Porte de Vincennes. Ouais. Vous passez sous le périphérique et vous voyez des bidonvilles avec des enfants, des gens qui cuisinent, etc. C'est une honte absolue. Je ne cesserai de le dire. Partout où je passe, bien évidemment, parce que je pense que c'est un sujet et qui nous concerne tous. Hein. On n'a pas à être anesthésié par notre bien-être, il faut aussi se préoccuper du bien-être des autres. Voilà, c'est dit. Merci pour cette table ronde. Un immense merci à Léa Glin. C'est bien, hein?
très intéressant.
Voilà.
Merci.
Super. Merci Léa, directrice développement et transition du groupe Pierbal. Changez rien, hein. Vous changez absolument rien. Je trouve ça extrêmement intéressant et vous revenez nous voir quand vous voulez. Un immense merci à notre experte Violette Falissard. Merci.
Merci à vous. J'aurais bien aimé continuer la discussion. Mais
J'aurais adoré. Mais la prochaine fois, moi, je vais voir un maillot de foot ou un maillot de rugby. Hein.
En tout cas,
vous êtes juste génial. Responsable adjointe du pôle environnement chez Amodev. On va mettre d'ailleurs les URL de votre société pour voir ce que vous faites parce qu'on a besoin de vous. Robin Mesplan, merci. C'est super.
Merci à vous.
Un grand merci et merci pour ce que vous faites. Responsable du service environnement climat pour le groupe Polylogie. Et un immense merci à notre star nationale.
Merci.
Notre super expert, c'est Rodolphe Barrault.
Merci.
Qui s'y prête. On se voit bientôt. Hein, on se voit à Bordeaux.
Exactement. Hein,
pour le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Vous y serez, Léa, au congrès des meilleurs. Et vous aussi, vous y serez.
Violette. Quelqu'un d'Amodev sera présent. Oui,
voilà, bah, écoutez, je serais ravi en tout cas de vous recroiser à Bordeaux. Il est 10h45, on est ravi d'être avec vous au CIPCA, seconde journée au Grand Palais. On enchaîne avec nos programmes. Restez à l'écoute et à tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, en partenariat avec Prestataire Certification sur Radio Immo et Radio Territoria.